Eh bien, bonjour. Alors, nous sommes réunis pour parler d'un livre qui vient de paraître, qui est L'effet Sagnac.
Comment vous appelez-vous ?
Je suis Pierre Spagnou, donc l'auteur de ce livre sur l'effet Sagnac, et qui s'appelle L'effet Sagnac, des énigmes théoriques aux applications pratiques.
Qui êtes-vous d'abord ?
Donc, je suis ingénieur chez Thales depuis de très nombreuses années. J'enseigne la physique à l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs du numérique, et je publie régulièrement des ouvrages dits de vulgarisation depuis une douzaine d'années. Voilà. Vulgarisation, ce n'est pas forcément un terme que j'apprécie énormément, mais ce sont des ouvrages, on peut dire, d'introduction à des thèmes de physique. Pourquoi pas vulgarisation, disons, destinée à un public non spécialiste, motivé, et qui est censé leur donner vraiment les infos importantes pour comprendre le sujet.
Alors, pourquoi avoir écrit ce livre ?
C'est un sujet qui me tient à cœur depuis, en fait, le début de mes tout premiers livres. Donc, dès que j'ai publié mon premier livre, De la relativité au GPS, chez le même éditeur, les éditions Ellipse, en 2012, c'est à cette occasion que j'ai pris connaissance, en travaillant sur ce livre, de l'effet Sagnac, dont l'intérêt est d'être, comme je le dis dès la page de couverture, à la fois extraordinaire, méconnu et incompris. C'est un effet qui est extraordinaire parce qu'il est contre-intuitif à de nombreux niveaux, on verra pourquoi. Il est méconnu, c'est-à-dire que si vous posez la question autour de vous, vous verrez que très très peu de personnes connaissent cet effet. Et lorsqu'il est connu, il est en général mal compris, c'est-à-dire compris de travers, ce qui est aussi un des objectifs de ce livre, de révéler ces incompréhensions qui sont très intéressantes en elles-mêmes.
Et vous enseignez donc l'effet Sagnac ?
Oui, j'enseigne l'effet Sagnac, effectivement. J'ai le bonheur d'enseigner cet effet à l'ISEP, donc École d'ingénieurs du numérique. Et c'est d'autant plus justifié de l'enseigner à des ingénieurs que cet effet, comme on en parlera par la suite, a de nombreuses applications pratiques.
Qui est Sagnac ?
Qui est Sagnac ? Jacques Sagnac était, dans les toutes premières années du XXe siècle, était un physicien. Anti-relativiste, et c'est à la suite, et donc il maintenait pour lui comme explication l'utilisation ou l'existence de l'éther, et donc c'est à la suite de ça qu'il a sans doute imaginé son expérience. Alors donc, Pierre, qui était Sagnac ?
Alors, Sagnac, donc Georges Sagnac, est un physicien français, donc de la fin du XIXe siècle, début du XXe, spécialisé dans des travaux sur l'optique et qui est principalement célèbre pour avoir été le premier à mesurer l'effet qui porte son nom. Oui, donc comme tu viens de le dire, Marc, donc c'était un physicien qui fait partie des partisans de l'éther, donc à la fin du XIXe siècle. Ils étaient encore très nombreux. Donc, en quoi consiste la théorie de l'éther, dit stationnaire ? On imaginait, de façon analogue aux ondes sonores, que les ondes lumineuses avaient besoin d'un milieu pour se propager, qu'on appelait éther, milieu qui était supposé immobile, donc baignant tout l'univers, et ce qui veut dire qu'il n'était pas entraîné, ce milieu, par le mouvement des objets. Donc, ce que va faire Sagnac, c'est il a cherché à mettre en évidence un effet qui, selon lui, prouvera l'existence de l'éther. Donc cet effet, en fait, il est prédit dès la fin du XIXe siècle par un autre partisan de l'éther, Oliver Lodge, en 1893. Et le raisonnement que fait Sagnac est tout à fait similaire à celui de Lodge. Donc que fait Sagnac ? Il va imaginer un dispositif, donc un circuit fermé, donc de forme quelconque, dans lequel on va faire circuler deux ondes lumineuses à contresens, et donc émises du même point fixe sur ce circuit tournant. Et donc, ce que prédit donc la théorie de l'éther dans ces conditions, c'est que les deux ondes lumineuses vont se propager à la même vitesse dans le référentiel du laboratoire, puisqu'elles se propagent à travers leur milieu, l'éther, et cela signifie que si le circuit tourne, eh bien, dans le référentiel du laboratoire, l'onde lumineuse se propageant dans le sens de rotation aura une distance supplémentaire à parcourir, tandis que celle se propageant en sens contraire aura une distance plus courte. Cela signifie qu'à l'arrivée, on devrait observer un déphasage entre les deux ondes lumineuses. Et cela signifie aussi que, vu du référentiel tournant, on s'attend à ce que l'observateur mesure des vitesses différentes par rapport au circuit tournant cette fois-ci. C'est-à-dire que vu du circuit tournant, on s'attend à ce que l'onde lumineuse qui se propage dans le même sens que la rotation sera diminuée par rapport à celle qui se propage en sens contraire, qui elle sera augmentée. Et on retrouve bien sûr, vu du référentiel tournant, le même déphasage que celui qu'on prédit vu du labo. Mais c'est simplement pour expliquer que dans le cadre de la théorie de l'éther, donc, on prédit ce déphasage entre les deux ondes lumineuses de deux façons. Dans le référentiel du laboratoire, c'est parce que les ondes lumineuses se propagent à la même vitesse mais ne parcourent pas la même distance qu'on observe ce déphasage, qu'on doit observer ce déphasage. Et dans le référentiel tournant, c'est parce que les deux ondes lumineuses ne se propagent pas à la même vitesse par rapport donc au circuit tournant et qu'elles parcourent par contre la même distance qu'on doit observer ce même déphasage. Donc ça, c'est la façon dont Sagnac et les partisans de l'éther prédisent ce déphasage dans l'expérience envisagée, hein, c'est-à-dire un circuit tournant de forme quelconque dans lequel deux ondes lumineuses se propagent à contresens. Donc ça, c'est ce qui est imaginé. Et Sagnac, en 1913, donc, est le premier à mettre au point cette expérience. Donc il utilise comme circuit tournant un polygone assez quelconque, en fait, et qui va faire tourner donc, deux tours par seconde. Et il va, dans ces conditions, prédire quel est le déphasage qu'il doit observer, dans ces conditions, en tenant compte de la longueur d'onde qu'il utilise pour la lumière, etc. Et son expérience va confirmer ce déphasage. Donc, pour Sagnac, c'est la preuve que l'éther existe.
Donc, alors, pour décrire le contenu du livre et de ce qu'est exactement l'effet Sagnac, Pierre, tu dis à un moment donné que cet effet, c'est l'acmé des contresens qui peuvent être faits à propos en particulier de la relativité restreinte.
Oui, effectivement, c'est ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de contresens. Mais pourquoi ? D'abord parce que, comme on l'a déjà dit, l'expérience de Sagnac original, et puis ensuite l'effet Sagnac lui-même, il est observé à l'aide donc d'ondes se propageant à contresens, donc c'est littéralement une expérience à contresens, mais ce qui a encore fait tout le charme de l'effet, c'est que Georges Sagnac lui-même a commis un contresens historique, peut-être le plus beau contresens de l'histoire de la physique, ce sur quoi on va revenir par la suite. Donc en fait, ce que je viens de dire avant sur le raisonnement de Sagnac qui l'a conduit à prédire, comme les partisans de l'éther, l'effet Sagnac, il a pu confirmer par son expérience, est en fait totalement erroné. Et donc, c'est ce qu'on va comprendre par la suite.
Vous dites totalement erroné ?
Oui, totalement erroné, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce que croit encore un nombre assez important de physiciens, non spécialistes de la relativité, il n'y a pas d'approximation non relativiste à l'effet Sagnac. C'est-à-dire que si on tient compte correctement des conditions de l'expérience, la physique non relativiste prédit un effet nul.
C'est très important.
Oui.
Alors, l'appareil de Sagnac, est-ce qu'il a calculé formellement son décalage ? Et ce décalage, est-il exact, par exemple ?
Oui. Alors donc, voilà, ce qui est très intéressant, c'est que la formule qu'obtient Sagnac, en fait, est correcte. C'est-à-dire qu'elle donne bien le bon déphasage qu'on doit observer, mais c'est l'exemple... Un exemple de raisonnement erroné conduisant au bon résultat théorique. Et il se trouve que l'effet Sagnac détient le record, certainement en physique, des différents procédés, différents raisonnements permettant de trouver la même formule théorique, mais par des procédés qui sont pour la plupart erronés. Donc pourquoi ? Je l'explique dans mon livre. Donc je laisse le lecteur découvrir quelles sont les raisons qui font qu'on a cette coïncidence ou ces coïncidences si nombreuses pour l'effet Sagnac. C'est-à-dire pourquoi on trouve par des moyens si différents le même résultat théorique alors même que le raisonnement est faux. Voilà. Donc,
alors quel est le bon raisonnement en fait dans ce cas-là ?
Alors le bon raisonnement, il consiste... Alors, je laisse le lecteur. Il faut faire un petit détour par la relativité restreinte afin d'en acquérir les fondamentaux. Donc là, on n'a pas le temps de le faire ici, mais par contre, je vais expliquer plus rapidement quels sont les éléments essentiels qui permettent, en relativité restreinte, de prédire correctement les faits, et pourquoi l'effet est nul en physique non relativiste. Pour faire cela, la solution la plus simple, c'est de montrer l'universalité de l'effet Sagnac, c'est-à-dire le fait que cet effet est observable, quelle que soit l'entité utilisée, pas seulement des ondes lumineuses, pas seulement des ondes, mais y compris des objets, des particules ou des objets macroscopiques, qui, à ce moment-là également, se déplacent à la même vitesse, ou pas, en tout cas à des vitesses, mais à contresens, le long du même circuit tournant. Donc, si on se place dans la situation où j'ai deux entités quelconques, ondes ou particules, qui donc sont émises d'un point fixé du circuit tournant au même instant, et qui donc parcourent à contresens ce même circuit, eh bien, on peut faire le calcul et voir ce que prédit la relativité restreinte. Est-ce que les deux objets vont se retrouver au même instant lorsqu'ils auront parcouru chacun un tour? Et donc, si on fait le calcul, on se rend compte qu'en relativité restreinte, il y a deux termes qui apparaissent dans le décalage temporel à l'arrivée entre les deux entités. Un qui correspond à ce que prédit déjà la physique non relativiste et qui dépend de chacune des vitesses, qu'on peut appeler V+ et V-, hein, des deux entités par rapport au circuit tournant, plus un second terme qui, lui, n'existe pas en physique non relativiste, qui est en fait le délai Sagnac, et où apparaît la vitesse limite cruciale en relativité restreinte, qu'on note C, et qui se trouve être aussi égale à la vitesse de la lumière. Enfin, plus précisément, la vitesse de la lumière se trouve être égale à la vitesse limite. Donc, il y a cette vitesse qui intervient au carré, et il y a simplement ensuite la vitesse angulaire du circuit et l'air englobé par le circuit qui intervient dans la formule. Et toute simple à se rappeler, hein, c'est 4 fois l'air englobé par le circuit, si on suppose que le circuit tourne autour de l'axe perpendiculaire à son plan, sinon il faut faire intervenir l'angle, hein, donc c'est tout. Donc 4 fois l'air fois la vitesse angulaire divisé par le carré de la vitesse limite. Ça, c'est le délai Sagnac. C'est le délai Sagnac dans toutes les situations pratiques. Donc, ce délai, lui, sa caractéristique, c'est qu'il ne dépend pas ni de V+, ni de V-. Donc, il ne dépend pas des vitesses des deux entités par rapport au circuit tournant. Et s'il n'existe pas, ce terme, en physique non relativiste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? C'est que Sagnac a cru que le premier terme non relativiste était non nul, que lui, il ignorait le second terme, qui n'existait pas dans sa théorie. Et donc, pour lui, ça prouvait que V+, était différent de V-, donc que les vitesses étaient différentes pour les ondes lumineuses par rapport au circuit tournant, donc la relativité restreinte était prise en défaut.
Alors, donc, quelles sont les erreurs, les autres erreurs, au fond, qui ont été commises à propos de l'effet Sagnac?
Voilà, donc c'est un des charmes de cet effet, que de détenir probablement le record en termes d'incompréhension et d'erreurs commises. C'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, il y a de nombreuses façons de déduire la même formule théorique, mais la plupart sont fausses. Donc, on a déjà vu celle consistant à croire qu'on pourrait déduire les faits par un raisonnement dans le cadre de la théorie de l'éther stationnaire. Cela revient en fait à aussi prétendre qu'on pourrait le déduire dans un cadre non relativiste. Et donc, comme je l'ai expliqué, la première chose à comprendre pour l'effet Sagnac, c'est de comprendre pourquoi il est purement relativiste. Et donc, ça suppose de définir ce qu'est un effet purement relativiste, ce qui est rarement fait d'ailleurs. C'est un effet, par définition, qui est métrique, parce que lié à la métrique d'espace-temps, en relativité, et par conséquent, c'est un effet qui ne peut pas se déduire dans un cadre non relativiste. C'est la caractéristique d'un effet purement relativiste. Donc ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc la première erreur, c'est celle-là. L'erreur la plus courante, c'est de continuer à croire qu'on pourrait déduire cet effet, au moins en première approximation, dans un cadre galiléen, on va dire, dans un cadre non relativiste. L'autre erreur, très courante, c'est aussi de croire que pour vraiment déduire de façon correcte et comprendre de façon précise cet effet, on aurait besoin de la relativité générale, et non pas simplement de la relativité restreinte. Alors, souvent, on trouve une combinaison des deux erreurs, celle consistant à croire que une première idée peut être donnée dans un cadre non relativiste, et qu'ensuite, si on veut vraiment aller au fond des choses, il faut la relativité générale. Ça, c'est les deux erreurs quand on les commet conjointement. Donc, pourquoi on croit à tort que la relativité générale serait nécessaire pour prédire l'effet Sagnac, c'est parce que c'est l'idée fausse selon laquelle la relativité restreinte ne s'appliquerait pas aux observateurs quelconques, mais uniquement aux observateurs inertiels, c'est-à-dire les observateurs qui ne sont mus que par leur seule inertie et qui ne tournent pas sur eux-mêmes. Donc ça, c'est une idée encore assez tenace, bien qu'elle soit fausse. Et voilà, c'est ce qui facilite l'erreur consistant à croire qu'il faudrait la relativité générale. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres erreurs qu'on peut commettre. Je vais en citer quelques-unes. Croire que ce serait l'analogue d'un effet Doppler non relativiste qui serait à l'œuvre, parce qu'il y aurait en quelque sorte un décalage des longueurs d'onde entre les deux ondes. Donc ça, on a vu que c'est faux, hein, puisque l'effet Doppler, ici, il ne joue aucun rôle dans l'effet Sagnac lui-même. Autre possibilité, si l'effet Sagnac était observé, enfin, dans le cas où l'effet Sagnac est observable avec des objets, pas seulement des ondes, l'erreur consiste à croire qu'il serait lié à l'effet Coriolis. C'est-à-dire que les deux objets voyageant à une certaine vitesse dans le référentiel tournant, leur trajectoire serait affectée par l'effet Coriolis et il y aurait une dissymétrie qui expliquerait le déphasage à l'arrivée. Donc cet effet Coriolis, il peut exister en théorie, hein, et en pratique, dans certaines expériences qu'on peut imaginer, où on utiliserait des particules ou des objets macroscopiques pour prédire l'effet Sagnac, ce qui n'a jamais été fait pour des objets macroscopiques, ça n'a jamais été fait directement. Dans ce cas-là, on s'attendrait à ce qu'il y ait un effet Coriolis, c'est vrai, mais là encore, cet effet Coriolis ne joue aucun rôle dans l'effet Sagnac. Dans le livre, je décris, je laisse le lecteur le découvrir, mais une variante de l'effet Sagnac qui est intéressante, sans rotation. Là encore, pour un peu plus perturber le lecteur peut-être, non. C'est pour vraiment, au contraire, aider à comprendre. C'est que fondamentalement, l'effet Sagnac, il est dû à la loi de composition relativiste des vitesses. C'est-à-dire que si on utilise la loi d'addition des vitesses connue en cinématique galiléenne, justement, ça ne permet pas de prédire l'effet Sagnac. C'est vraiment cette loi de composition relativiste où intervient la vitesse limite, lorsqu'on compose deux vitesses, qui permet de retrouver l'effet Sagnac, quand on raisonne dans le référentiel du laboratoire. C'est une autre raison pour laquelle l'effet est vraiment purement relativiste, puisque la loi de composition relativiste des vitesses est une conséquence directe de la métrique d'espace-temps. Donc je décris dans le livre, hein, plus en détail, c'est quoi une métrique d'espace-temps, hein. Métrique d'espace-temps qui, en relativité restreinte, est celle de Minkowski. Voilà. Donc c'est très important de comprendre avant tout que l'effet est purement relativiste. Donc j'ai cité que quelques-unes des erreurs, il y en a énormément d'autres, mais les deux plus courantes sont celles que j'ai citées, c'est-à-dire celles sur croire que la relativité générale est nécessaire, et la première de toutes, croire qu'on peut, au moins en première approximation, avec un raisonnement non relativiste, prédire l'effet.
A priori, on dirait, est-ce que l'erreur va dans tel ou tel sens? Mais si je vous comprends bien, ces erreurs vont dans tous les sens.
Oui, on peut dire ça, et c'est même le titre d'un de mes chapitres. Donc, effectivement, l'effet Sagnac qui est vraiment charmant pour ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'ironie, finalement, dans cette histoire. Et c'est vrai que là, on a vraiment des erreurs dans tous les sens. Et donc, il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts. Voilà.
Alors, maintenant que nous savons qu'il y a eu beaucoup de contresens et que l'effet Sagnac ne marche que dans une optique, ou dans un contexte relativiste, quelles sont les expériences ou la première expérience qui a montré que cet effet était vraiment purement relativiste du point de vue expérimental?
Oui, voilà, c'est une très bonne question, puisque comme on a vu que que ce soit le raisonnement non relativiste ou le raisonnement relativiste pouvait conduire à la même prédiction théorique. Donc comment on départage les deux et comment on prouve que c'est bien l'explication purement relativiste qui est correcte? Et effectivement, il y a une expérience là encore qui est peu connue et encore moins connue pour son lien avec l'effet Sagnac, c'est celle de Affeley et Keating, 1971. En fait, c'est la première expérience qui a permis de vérifier les effets de désynchronisation relativiste des horloges. Parce que l'effet roi, en fait, de la relativité en général, et en particulier de la relativité restreinte, c'est la désynchronisation des horloges parfaites. J'aime bien utiliser ce terme qui est rarement utilisé, puisqu'on utilise encore aujourd'hui couramment le terme confus dilatation du temps ou des temps ou des durées, mais qui est vraiment critiquable pour de nombreuses raisons, j'en cite dans mon livre. Il est plus correct de dire désynchronisation des horloges parfaites. Pourquoi ? Parce qu'en physique non relativiste, deux horloges qui sont identiques, qui ne se dérèglent jamais si elles sont parfaites, et qui sont parfaitement synchronisées au départ, ne peuvent jamais se décaler. C'est impossible. Et en fait, en relativité restreinte, c'est tout l'inverse. La désynchronisation, c'est la règle générale. C'est pourquoi ? Parce que le temps propre que va mesurer une horloge, c'est en fait la longueur de sa trajectoire dans l'espace-temps. Et donc, il y a autant de temps propre que de trajectoires différentes dans l'espace-temps. Et donc, en règle générale, eh bien, comme nous n'avons pas les mêmes trajectoires dans l'espace-temps, même si ça peut être des petits écarts, eh bien, la désynchronisation est la règle. Et c'est quelque chose qui est incompréhensible en physique newtonienne. J'aime bien dire que désynchronisation des horloges parfaites, c'est un oxymore à la manière de un silence assourdissant pour un physicien non relativiste, puisque c'est, il y a une contradiction dans les termes. Comment deux horloges parfaites pourrait-elle finir par se décaler? Et en relativité restreinte, en fait, comme chaque horloge mesure son temps propre et qu'il y a multiplicité des temps propres, au contraire, la règle, c'est qu'il n'y a aucune raison que les deux horloges, une fois réunies, indiquent le même temps propre et donc se retrouvent toujours synchronisées. Voilà. Alors, en quoi ça, c'est lié à l'effet Sagnac? C'est qu'il faut imaginer que ce que prédit la relativité restreinte, c'est quoi? Si j'imagine que j'ai deux jumeaux, cette fois-ci, sur mon circuit tournant, qui partent au même instant d'un même point de ces circuits tournants, qui tournent avec ce circuit tournant, et qui ensuite, chacun de ces jumeaux fait un tour complet. Supposons qu'à sa montre, le jumeau partant en sens contraire, c'est celui qui va arriver en premier, bien sûr, au point de départ, lui, va mesurer une heure. Donc il arrive à l'observateur qui se trouve au point en question, et il lui dit, ben, moi j'ai mesuré une heure pour mon tour complet. Ok. Il attend 10 minutes et il voit arriver son jumeau qui arrive et qui lui dit « Ben moi aussi, j'ai mesuré une heure pour faire un tour, mais cette fois-ci dans le sens de la rotation. » Et qu'est-ce qui se passe quand il compare l'heure de montre? Il constate qu'elles sont décalées de 10 minutes. Et c'est bien une désynchronisation purement relativiste puisqu'elle n'est pas liée au dérèglement des horloges. Donc on voit bien qu'en relativité restreinte, on explique justement ce décalage temporel par la désynchronisation des horloges parfaites. En tout cas, dans le cas où on peut attacher des horloges aux deux entités. La lumière apparaît à ce moment-là comme un cas limite, obtenu en faisant tendre la vitesse de nos deux jumeaux vers la vitesse limite. Et dans ce cas, leur durée propre tend vers zéro. Mais c'est un cas particulier, la lumière, d'un effet beaucoup plus général. Et où intervient l'expérience donc, de Haffey et Keating, c'est qu'eux, ils ont montré par leur expérience que lorsqu'on embarque les meilleures horloges de l'époque, qui étaient des horloges atomiques, évidemment inutile de dire que depuis 1971, on a fait beaucoup de progrès, mais déjà à l'époque, ils avaient les moyens, c'est pour ça qu'ils l'ont fait l'expérience, d'avoir la précision suffisante pour mesurer les petits écarts relativistes. Ils ont embarqué donc quatre horloges atomiques à bord d'avions de ligne commerciaux, donc ils ont fait un tour du monde avec escale, un vers l'est et l'autre vers l'ouest, à peu près au niveau de l'équateur. Et ils ont bien sûr prédit ce que devait prédire la relativité restreinte comme écart entre les temps propres, entre les horloges embarquées et les horloges à l'arrivée, puisque comme c'est un tour complet, on peut comparer au début et à l'arrivée les temps propres des horloges. Et ce qu'ils ont vérifié, c'est qu'en fait, il y avait une asymétrie dans la désynchronisation entre les horloges parties vers l'est et celles parties vers l'ouest. Donc celles parties vers l'est accusaient un retard à l'arrivée par rapport aux horloges fixes à la surface de la Terre et celles parties vers l'ouest accusaient une avance. Et ça, c'est la désynchronisation qui est à l'origine de l'effet Sagnac en relativité restreinte. Donc, qu'a-t-on fait? On a prouvé que l'effet existe, de désynchronisation, et on sait que cet effet est à l'origine de l'effet Sagnac. Donc, on n'a pas mesuré directement le délai Sagnac, puisqu'il aurait fallu à ce moment-là faire partir deux avions exactement à la même heure, et comparer à quel moment, voilà, et comparer les temps d'arrivée, évidemment, ce n'est pas possible en pratique, mais on peut montrer que, et c'est ce qu'on a fait, qu'il y a bien cette désynchronisation qui est asymétrique dans les deux sens du voyage et qui est bien à l'origine de l'effet Sagnac. Donc l'expérience de Haffey et Keating montre notamment, ce n'est pas son seul intérêt, mais elle a contribué à montrer l'origine purement relativiste de l'effet Sagnac. Donc vous voyez le à quel point c'est riche de ce point de vue-là. Et là aussi, c'est une expérience qui n'est pas assez connue, celle-là, ouais. Et encore moins en ce qui concerne son lien avec l'effet Sagnac, qui n'a pas d'ailleurs été forcément mentionné par les Raphaël et Keating eux-mêmes, hein, même si l'importance de la symétrie était bien comprise.
Et cet effet est très tardivement, vous dites 1900.
Oui, alors c'est une très bonne remarque. En relativité, il ne faut pas être patient. Mais c'est très intéressant du point de vue historique et pédagogique parce que, oui, dans ce cas-là, la première prédiction de cet effet, c'est Einstein 1905, dans son article fondateur pour la désynchronisation cinématique, c'est-à-dire liée aux vitesses. Et il faut attendre 66 ans pour avoir effectivement la première expérience qui permet de confirmer l'effet. Et ça, c'est parce que pendant longtemps, on n'avait pas les horloges suffisamment précise pour mesurer ces effets, puisqu'il s'agit de mesurer quelque chose qui peut être de quelques dizaines de nanosecondes, milliardièmes de secondes, hein, c'est quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, ça pose aucun problème, et c'est d'ailleurs une occasion de redire, parce qu'avec le recul, et là, comme nous sommes ingénieurs, avec Marc aussi, on a ce recul. Historiquement, on a souvent sous-estimé les progrès technologiques. Einstein lui-même, il était persuadé, mais non sans raison, hein, qu'il y a un tas d'effets prédits par sa théorie, ses théories relativité récente ou générale, qui ne seraient jamais vérifiés, parce que justement, à son époque, les horloges n'avaient pas du tout la précision pour arriver à faire ça. Maintenant, quelques dizaines de milliardièmes de seconde, pour des horloges actuelles, c'est extrêmement facile à mesurer. Donc en physique, c'est un rappel aussi que ça n'a pas de sens de parler de faibles ou grand, tout dépend ce qu'on en fait dans le contexte, évidemment, de l'expérience ou de l'application pratique.
Nous avons discuté beaucoup, c'est très passionnant en vous écoutant, mais est-ce que dans le livre, il n'y a que le côté donc, théorique, historique, et même, voire philosophique, donc l'histoire des sciences et tout ça, qui sont passionnants? Enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'applications, est-ce que vous en avez parlé dans votre livre?
Oui, alors effectivement, ça c'est un autre volet très intéressant de l'effet et qui permet justement de montrer toute sa richesse, c'est-à-dire que c'est pas seulement intéressant d'un point de vue théorique, conceptuel, historique, pédagogique, mais il se trouve que c'est un effet qui a beaucoup d'applications pratiques. Et on va voir certaines des technologies les plus innovantes, actuelles et à venir, utilisent l'effet Sagnac. Alors, il y a deux grandes classes d'applications pour l'effet Sagnac. Il y a le transfert de temps et les gyromètres. Alors, celle qui est la plus évidente, on va dire, pour l'effet Sagnac, bien sûr, ce sont les gyromètres. Qu'est-ce qu'un gyromètre? C'est un capteur de vitesse angulaire. Donc, ces capteurs de vitesse angulaire, ils ont différentes applications eux-mêmes, notamment les centrales inertielles. Qu'est-ce qu'une centrale inertielle? C'est un dispositif qui permet de déterminer, sans référence extérieure, quand il est attaché à un objet donné, tous les déplacements que subit l'objet, y compris les changements d'orientation. Donc sans avoir besoin d'aucune référence extérieure, la centrale inertielle, à l'aide d'accéléromètres et de gyromètres, permet de déterminer ces paramètres. Donc ça a beaucoup d'applications, puisqu'évidemment on s'en sert aussi bien dans les avions de ligne commerciaux, dans les drones, dans les sous-marins, dans les bateaux, et aussi dans les smartphones d'ailleurs, puisqu'on peut considérer que le smartphone a ce qui équivaut à une centrale inertielle, puisqu'il a des accéléromètres et des gyromètres. Donc, les meilleurs gyromètres actuels sont ceux à effet Sagnac, c'est-à-dire les gyromètres optiques. Donc, ils utilisent l'effet Sagnac. Donc, c'est même, on peut dire, l'application pratique de la relativité récente la plus répandue sur Terre, parce qu'on a des millions d'exemplaires de gyromètres optiques. Mais l'ironie, là encore, c'est que la plupart des physiciens ne le savent pas, puisqu'ils n'ont pas compris que l'effet était purement relativiste, ils ne rangent pas les gyromètres optiques parmi les applications pratiques de la relativité restreinte. Ce qui est dommage, hein, puisque c'est quand même important de comprendre pour un ingénieur que ces gyromètres optiques sont vraiment une application pratique courante, aujourd'hui, de la relativité restreinte, puisque ce sont ces gyromètres-là qui sont les plus performants. Alors, ils ne sont pas donnés, en général, c'est quelques milliers d'euros, hein, gyromètre optique. Mais, bien sûr, pour des avions de lignes commerciaux, pour des bateaux, etc., ou pour des drones sophistiqués, et pour les futures voitures autonomes, il est évident qu'ils joueront un rôle important, et ils jouent déjà un rôle très important, puisque le marché de l'inertiel est aujourd'hui occupé à 80% par des gyromètres à effet Sagnac. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier volet gyromètre. Alors, on peut aussi rajouter, en dehors des centrales inertielles, on a besoin aussi du gyromètre pour d'autres choses, par exemple pour faire des sismomètres rotationnels. C'est quoi un sismomètre rotationnel? C'est justement un capteur qui va permettre de mesurer les vitesses de rotation liées à des séismes. Parce que ce qui n'est peut-être pas très connu, c'est que donc, quand il y a un séisme, il n'y a pas que des mouvements de translation, il y a aussi des mouvements de rotation. D'accord, du sol, des roches ou tout ce que vous voulez. Et donc, même pour des micro-séismes, on va être intéressé par mesurer finement tous ces mouvements liés au séisme, alors pour mieux comprendre ce qui se passe lors d'un séisme et pour mieux protéger, en conséquence, les infrastructures, bâtiments, ponts, etc. Et on peut suivre même, pour les infrastructures, ce qui arrive pour bien s'assurer qu'on maîtrise bien tout ce qui se passe. Donc ça, c'est une autre classe. Donc, c'est la première application, gyromètre. L'autre application, c'est le transfert de temps. Alors là aussi, il y a toute une classe d'applications associées à ça. C'est quoi le transfert de temps? C'est une technique qui consiste à comparer les temps propres de deux horloges distantes, afin, en général, de les synchroniser. Puisqu'en pratique, bien sûr, on a de plus en plus besoin de synchroniser finement des réseaux d'horloges. Évidemment, on ne va pas à chaque fois transporter une horloge d'un point à un autre pour le faire. On veut pouvoir le faire à distance. Donc ça, c'est la technique de transfert de temps. Et ce transfert de temps, il joue un rôle capital dans les systèmes de géolocalisation par satellite. Pourquoi ? Parce que par définition, dans la géolocalisation par satellite, on doit connaître avec grande précision les temps d'émission pour les signaux émis par les satellites de géolocalisation en direction de la Terre et du récepteur qui va utiliser ces signaux. Donc là, c'est le transfert de temps, il est capital. Pourquoi ? Et pourquoi l'effet Sagnac intervient dans ce transfert de temps ? Oui. C'est un des effets, pas le seul, mais qu'on doit prendre en compte pour le transfert de temps, autrement dit, pour arriver à comparer les temps propres des horloges distantes. C'est parce que quand vous émettez un signal depuis un satellite vers la surface de la Terre, vous l'émettez vers un point qui se déplace avec la rotation de la Terre. Et donc l'effet Sagnac intervient. Et si vous ne le prenez pas en compte, ça va fausser votre comparaison qui ne sera pas exacte. Donc, dans la plupart des situations, il faut tenir compte quand même de cet effet Sagnac. Et donc, c'est un des effets relativistes, ce n'est pas le seul, qu'il faut prendre en compte dans le transfert de temps. Voilà. Et le transfert de temps, ce n'est pas limité uniquement à la géolocalisation par satellite, hein, où on en a vraiment besoin, parce que la géolocalisation par satellite, c'est par définition un système relativiste, puisqu'il requiert une maîtrise du temps très fine, et bien sûr, les effets de désynchronisation relativiste ne peuvent pas être ignorés dans son fonctionnement. Donc, il y a aussi bien les effets prédits par la relativité restreinte que la relativité générale, c'est-à-dire avec la gravitation, mais la relativité restreinte, là aussi, joue un rôle très important. On peut dire aujourd'hui, sur Terre, que les deux grandes applications pratiques de la relativité restreinte sont d'abord les gyromètres optiques à effet Sagnac, et aussi donc, le rôle de l'effet Sagnac dans la géolocalisation par satellite, dont les applications sont gourmandes.
Alors donc, Père Pierre, pour terminer, on va aborder un problème que tu soulèves dans le livre, qui est un problème d'ordre épistémologique, qui concerne au fond, alors c'est un autre type de gyro, ce sont des gyro atomiques, qui eux sont guidés ou sont déterminés ou formulés par de la mécanique quantique, mais une mécanique quantique qui est non relativiste, ça utilise l'équation de Schrödinger, ou aussi les chemins de Feynman. Et tu dis que dans ce cas-là, il y a une incompréhension, où il y a quelque chose qui ne va pas, au fond, dans l'interprétation de ce que l'on peut faire comme étant un effet Sagnac qui serait non relativiste. Alors, est-ce que c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore, comme je dis à la fin, ça ajoute encore au charme irrésistible de l'effet Sagnac, qu'on a vu toutes les erreurs, etc. Et là, par contre, c'est un problème ouvert, c'est-à-dire même si je propose quand même une piste sérieuse, c'est quand même un problème ouvert, puisque justement, d'abord, le problème n'a pas vraiment été acté par la communauté, c'est-à-dire qu'on est très peu nombreux à alerter sur ce sujet, donc j'espère que mon livre contribuera à faire avancer le sujet. On est très très peu nombreux, je ne suis pas tout à fait le seul, mais vraiment, on est très très peu nombreux. Effectivement, en étudiant, en relisant, en parcourant les nombreuses thèses consacrées aux gyromètres atomiques, qui sont les gyromètres probablement qui vont remplacer les gyromètres optiques parce qu'ils ont un potentiel énorme en termes de performance, de sensibilité. Ils sont limités aujourd'hui principalement par le rapport signal sur bruit, parce que l'intensité des sources est très, très faible par rapport à ce qu'on a pour des gyromètres optiques. Mais il n'empêche qu'il y a un gros, gros potentiel. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, on trouvait dans les thèses dans la même thèse, deux façons de déduire les faits, qui est un déphasage aussi. Donc ce déphasage dans les géomètres atomiques, en fait, il est dû au comportement ondulatoire des ondes, hein, liées aux atomes qu'on utilise, et donc aux ondes de matière associées. Donc on utilise pour ces paquets d'ondes, voilà, le formalisme quantique, mais non relativiste. Ça, c'est la méthode habituelle par les spécialistes des gyromètres atomiques. Ils utilisent effectivement, comme l'a dit Marc, une méthode quantique non relativiste. Soit c'est l'équation de Schrödinger, soit c'est, encore de façon plus courante, l'intégrale des chemins de Feynman qui permet de retrouver, de prédire les faits. Mais la relativité restreinte n'intervient nulle part. Et dans la même thèse, on trouve souvent alors l'idée que l'effet est universel, l'effet Sagnac, et donc il devrait s'appliquer aussi à ces ondes de matière, et que c'est ce qu'on mesure aussi. Et d'ailleurs, on trouve par un raisonnement également, alors plus rudimentaire, mais un raisonnement aussi en physique, en relativité restreinte, également la même formule théorique. Mais par contre, ce que je mets en lumière, c'est que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire que l'effet Sagnac, enfin que le déphasage, en tout cas, mesuré dans ces gyromètres atomiques, est relativiste et qu'il est non relativiste. Puisqu'on sait, justement, que l'effet Sagnac est purement relativiste et donc une conséquence directe de la métrique d'espace-temps de Minkowski. Or, celle-ci est évidemment absente dans toute théorie mécanique, dans toute mécanique quantique non relativiste. Donc, c'est cette contradiction qui actuellement est non résolue. Alors, je propose une piste, c'est que je pense qu'effectivement, la méthode qui est utilisée depuis plusieurs décennies, donc celle de l'intégrale des chemins de Feynman, pour prédire le déphasage dans les gyromètres atomiques, est correcte, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'analogue d'un effet Coriolis appliqué aux ondes de matière qui conduit à ce déphasage, et que donc ce n'est pas dans ce cas-là un effet Sagnac qui est mesuré dans les gyromètres atomiques. Ça ne veut pas dire que cet effet est inintéressant, bien sûr, mais c'est important, évidemment, quand on fait de la physique, de comprendre l'effet qu'on utilise. Donc pour un ingénieur aussi bien que pour un physicien, et pour un ingénieur aussi, parce que sinon, si on ne comprend pas l'effet qu'on mesure, ça veut dire qu'on ne le maîtrise pas. Donc, évidemment, l'enjeu, il est important. Et comme l'a dit Marc, c'est un enjeu épistémologique aussi, parce qu'on peut trouver étrange que ça n'intéresse pas davantage les physiciens, ce sujet. Alors que le but de la physique, comme l'a rappelé Einstein souvent, mais qui a tendance peut-être à être un peu oublié ces temps-ci, c'est la compréhension.
Est-ce qu'il y a, en vous écoutant, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de terminologie, en fait ? Le fait de...
Ah. C'est une bonne question. Alors, on pourrait se dire, après tout, l'effet Sagnac, que certains l'utilisent aussi bien pour tout déphasage, quel qu'il soit. Mais en fait, non, parce que ça, j'ai bien vérifié. Il y a vraiment un problème de compréhension, parce que l'enjeu, c'est de savoir quelle est la déduction qui est correcte. Est-ce qu'on a besoin de la relativité restreinte pour prédire le déphasage qui est mesuré dans les gyromètres atomiques ou pas ? Et ça, c'est pas de la terminologie. Effectivement, on pourrait dire, si on met, appelons effet Sagnac tout déphasage. Mais en fait, c'est pas ça. L'effet Sagnac, de toute façon, pour les spécialistes de la relativité, c'est clairement un effet purement relativiste. C'est celui que j'ai dit, où il y a, qui fait apparaître un terme qui n'existe pas, un résidu dans la désynchronisation, qui est ineffaçable, qui ne dépend pas des vitesses par rapport au circuit. Ça, c'est vraiment l'effet purement relativiste. Effectivement, après, on pourrait toujours changer s'ils veulent ensuite à terme appeler effet Sagnac, mais ce serait une source de confusion plus qu'autre chose. Mais au-delà de la terminologie, ce qu'il est important de savoir, c'est quelle est la théorie qui convient pour prédire le déphasage incontestable, lui, qui est mesuré dans les gyromètres atomiques. Ça n'empêche pas de construire des gyromètres atomiques, mais c'est un peu gênant d'être dans la situation où des ingénieurs sont en train de mettre au point des systèmes physiques très performants, mais dont on ne maîtrise pas, on ne comprend pas l'origine de l'effet mesuré.
Oui, c'est ça. Dans les gyroatomiques, on n'a pas une théorie pour expliquer...
On l'a, mais on ne sait pas quelle est la bonne.
C'est très passionnant. C'est très passionnant. En fait, c'est un peu au croisement de plusieurs domaines très pointus.
Oui. Et au niveau épistémologique, ce qui est intéressant là, c'est que on voit bien qu'on a besoin à la fois des physiciens quantiques et des physiciens relativistes. Comme l'a dit Marc un peu plus tôt, il faut être conscient qu'on exagère souvent les interactions entre les scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne se lisent pas si souvent que ce qu'on croit.
Oui, c'est vrai.
Parce que, par exemple, je cite beaucoup dans le livre un article de Malikine qui contient 300 références et qui s'appelle « The Sagnac Effect, Correct and Incorrect Explanation », c'est-à-dire, il est vraiment, là, lui cite beaucoup de sources, ça n'a pas dû faire que des heureux, d'erreurs, donc, concernant l'effet Sagnac, et force est de constater que ça n'a pas eu un énorme effet. Il date de 2000, hein, quand même, cet article. Donc, ça ne veut pas dire que le processus autocorrectif cher à la science ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'il faut être conscient que, suivant le contexte, le temps nécessaire peut être plus ou moins long. Et là, on est dans le cadre d'un temps long, mais j'espère en tout cas que mon livre contribuera humblement à faire avancer ce sujet très, très, très intéressant sur l'origine de l'effet de déphasage mesuré dans les gyromètres atomiques.
C'est ça. Allons, nous allons lire et nous allons discuter, débattre. Voilà.